Épisode 20. Aujourd'hui, il fait froid. On est début décembre. Rien d'exceptionnel, c'est normal dans l'hémisphère nord. Salut tout le monde. Salut Violaine.
Salut Nathan. Salut à tous.
Comment ça va ?
Ça va bien. Écoute, il fait un peu froid, comme tu dis, mais on survit.
Ouais, largement. Largement. C'est la deuxième partie aujourd'hui de notre présentation. On avait commencé la semaine dernière, eh bien on continue aujourd'hui, ou plutôt on reprend. Si vous ne l'avez pas encore écouté, bah, je vous conseille, je vous recommande d'y aller, de commencer par la première partie, ce sera plus logique. Si vous avez besoin du texte détaillé, vous savez que vous pouvez le retrouver, voilà, en ligne depuis quelques jours, depuis la semaine dernière, sur notre site internet qui vient de sortir, qui vient d'être publié. Violaine, est-ce que tu peux rappeler le nom de ce site, de notre site ?
Oui, bah, ça s'appelle tout simplement frenchwithspanache.com. Il vient d'ouvrir ses portes et tout y est. Vous laissez juste votre mail, c'est gratuit. Et après, vous aurez accès aux transcriptions détaillées. On vous conseille de le faire, évidemment, de les télécharger pour pouvoir extraire les mots, les expressions, les formules, la grammaire dont vous avez besoin et peut-être les choses sur lesquelles vous avez des difficultés quand vous nous écoutez.
Ouais, ce sera utile, j'en suis persuadé, allez-y. On continue donc dans cette deuxième partie avec la suite des questions qu'on voulait se poser déjà la semaine dernière et puis on n'avait pas le temps, on a été pris par le temps. Mmh. Donc on va continuer cette série de questions, Violaine, ce questionnaire célèbre inspiré de Marcel Proust, mais c'est un questionnaire qu'on a revisité, hein. Ce n'est pas exactement le même.
C'est pas exactement le même. Même si vous le regardez, vous verrez qu'on l'a revisité, qu'on a changé et adapté quelques questions. On commence ?
On commence. Alors, on commence direct. Hein. On ne va pas tourner autour du pot. Tourner autour du pot, c'est faire des détours, contourner. Non, on va...
ne pas parler directement
ouais,
de ce
voilà.
que tu veux.
Donc, on ne va pas tourner autour du pot. Donc, on va droit au but. On commence directement. Et pour cette première question, Violaine, j'aimerais savoir, en fait... quelle est ta ville préférée en France, hein, on fait un podcast sur la société française, donc on va rester à la France. Est-ce que tu as une petite idée?
Ma ville préférée où j'ai habité ou même que j'ai visité?
Peut-être, pour commencer, allez, où tu as habité, que tu connais bien, quoi.
J'ai habité à Lyon et à Grenoble, où on s'est rencontrés.
C'est vrai.
Et c'est vrai que je porte Grenoble dans mon cœur, parce que c'est une super ville pour moi. Je sais que certains nous écoutent de Grenoble. De très bons souvenirs, c'est une super ville pour les étudiants, très vivante, avec une nature évidemment incroyable.
On l'appelle la capitale des Alpes.
Et oui.
C'est donc à l'est de la France, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et c'est une ville très étudiante.
Mmh,
il y a combien d'habitants ?
Je ne sais pas exactement le nombre
d'étudiants. C'est une ville moyenne, en tout cas.
C'est une ville moyenne. Je sais qu'il y a 60 000 étudiants, ce qui est énorme. Et on les voit, évidemment, tout le temps quand on est dans la ville.
Pour la France, c'est beaucoup. Mmh. Et puis, c'est connu aussi parce que c'est une ville écolo.
Ouais.
Le maire Éric Piolle est écolo. Mmh. Donc, il y a pas mal d'initiatives pour défendre l'environnement. Moi, c'est une ville qui est un peu plus au sud, plutôt en allant vers Marseille, en se rapprochant de la mer Méditerranée. Et moi, il s'agit d'Aix-en-Provence. Peut-être que là aussi, hein, vous nous écoutez depuis Aix, comme on dit.
Comme on l'appelle.
Et là aussi, c'est une ville vraiment sympa, très colorée. J'ai adoré les bâtiments, les murs jaunes, roses, bleus par moments.
Pareil, très étudiante.
Ouais, pareil, très étudiante. Voilà, j'ai préparé là-bas les concours des écoles de journalisme. Et c'est vrai que pour étudier, pour travailler, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a pire.
Bah ouais.
On y mange bien. J'ai beaucoup kiffé, j'ai beaucoup aimé cette ville.
Et d'ailleurs, une des villes que je préfère, mais où je n'ai pas habité sur le long terme, c'est Marseille, qu'on aime beaucoup.
Et y a plein de villes.
Qu'un jour, on fera un épisode sur Marseille.
Ouais, on a plein d'idées en tête. Hein. Il faut juste nous laisser du temps.
Exactement. Autre question. Quelle serait la personne ou le personnage dans l'histoire de France que tu retiens, que tu retiens ou que tu préfères ou que tu trouves qui a eu un impact sur notre histoire?
Alors, si on se cantonne à la France, si on reste dans l'histoire française, bah moi, tu sais, je suis très intéressé par l'histoire de France, mais l'histoire moderne, mm-hmm. l'histoire récente du XXe siècle. Donc, si on regarde le XXe siècle, Violaine, peut-être que tu as une idée parce que je t'en parle souvent. Je ne peux pas dire, je n'ai pas envie de dire que je suis fan. J'aime pas ce mot parce qu'on est fan peut-être d'un chanteur, d'un groupe de musique ou d'un sportif, d'un footballeur. Mais moi, je vais parler de Robert Badinter.
Il y a beaucoup de livres dans cet appartement de Robert Badinter.
Juste à ma gauche, là, j'ai un livre de Robert Badinter. Donc Robert Badinter, c'est... Alors, ce n'est pas un écrivain à la base. En fait, c'est un homme politique, mais même un avocat au début. Il est toujours vivant, donc je vais en parler au présent.
Oui, et en fait, vieux,
il est assez âgé, ouais. Mais en fait, c'est un ancien avocat, un très grand avocat des années 60-70 en France. Et c'est, alors pour résumer, parce qu'il a une vie tellement incroyable que voilà, on veut tenir cet épisode en moins d'une heure. Mais en gros, il a été avocat, il a défendu des condamnés à mort à l'époque où la France avait encore la peine de mort, la guillotine, vous savez, quand on coupe la tête. Et en fait, bah, cet homme, il a donc défendu, il a réussi à sauver des gens condamnés à la mort. Et en plus, ensuite, il a fait de la politique. Il est devenu ministre de la Justice dans le gouvernement, pour ceux et celles qui aiment la politique, dans le gouvernement de François Mitterrand. Donc François Mitterrand, le président socialiste des années 80. Je vous renvoie aussi à l'épisode sur les présidents français. Donc Robert Badinter est devenu ministre de la Justice. Et dès qu'il est arrivé au pouvoir, dès qu'il est entré au gouvernement, eh bien, il a pris quand même cette loi, cette réforme incroyable d'abolir, de supprimer, donc d'abolir la peine de mort en France.
En 1981. Et la France était un petit peu en retard sur ce sujet.
Voilà, moi c'est un homme que j'admire, que j'adore. Toi aussi, hein.
Voilà, pour sa justesse dans ses combats et sa constance. Mais moi, je vais mentionner quelqu'un d'autre, une femme qui est aussi une avocate qui a marqué l'histoire moderne de la France.
Ouais.
Gisèle Halimi.
Bien sûr, ouais. Que je connais aussi. Je ne savais pas que tu l'admirais.
Bah, parce pour pareil, ses combats, donc elle a défendu des femmes qui avortaient clandestinement en France quand l'avortement n'était pas autorisé.
C'était quand ça ?
Dans les années 60 et 70. Elle a aussi beaucoup œuvré pour la décolonisation, tous les droits liés à la décolonisation. C'est une grande féministe, une grande femme qui a eu beaucoup d'impact.
Et elle est décédée récemment. Hein.
Elle est décédée récemment, mais elle est rentrée au Panthéon, comme on dit.
Je ne sais plus si elle est déjà entrée ou elle va entrer au Panthéon, ce monument où reposent finalement les restes de très grands hommes. Alors on dit hommes, mais de très grandes femmes aussi depuis quelques années. Et voilà, ouais, c'est une femme assez incroyable, finalement de la même époque que Robert Badinter.
Exactement, finalement. Et pareil, tous les deux grands avocats qui ont œuvré pour les droits humains. Et c'est vrai que je me sens plus proche d'elle que de Simone Veil, par exemple, qui a rendu officiellement l'avortement légal en France.
Mais qui était incroyable.
Rentrée au Panthéon, non ?
Oui, bien sûr. Mais pourquoi tu te sens moins proche ?
Dans le reste de ses idées, j'ai plus d'atomes crochus avec Gisèle
Halimi. Ok. Très bien, Violaine, voilà. Un peu pour nos goûts historiques, politiques. Maintenant, sujet alors plus léger, je ne sais pas, mais qui nous concerne plus personnellement. Est-ce que tu as des phobies, toi ? Est-ce que tu as des peurs, des phobies ?
Oui.
Lesquelles ?
J'en ai...
Ou laquelle ? Une seule ?
Une qui me vient tout de suite en tête, les chauves-souris. Vraiment, c'est une phobie, au sens de la définition de phobie, c'est que ça me terrorise.
Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience avec une chauve-souris, donc qui vole la nuit, surtout l'été, non ?
Ouais, surtout l'été, et puis en France, on a de la chance, elles sont pas énormes, mais je sais que dans certains pays, elles sont énormes, avec des ailes énormes, ça me terrorise. J'ai eu une expérience une fois qui était, vous allez voir, pas horrible, mais qui m'a... marqué. J'étais toute seule chez une amie à Toulouse, ouais. Et j'ai fermé les volets et une chauve-souris était cachée dans le volet et donc elle est rentrée dans l'appartement.
Mais non.
Et c'était tellement horrible, j'ai tellement eu peur que j'ai appelé le voisin de mon ami que je ne connaissais pas. Et il a donc chassé la chauve-souris de l'appartement et j'avais dû annuler un cours tellement j'étais
ah oui,
occupée à chasser cette chauve-souris.
Et pourtant, c'était en ville, hein, c'était pas à la campagne.
Oui, mais sachez que Toulouse a introduit des chauves-souris dans la ville pour éliminer les insectes. Voilà pourquoi il y avait une chauve-souris. Et
d'accord.
Toi ?
Alors moi, c'est une phobie peut-être que vous partagez aussi et qui est assez banale, mais moi, j'ai peur du vide. Moi, j'ai le vertige. Donc en fait, j'ai cherché tout à l'heure le terme en français, on dit acrophobe. Voilà, quand on a peur du vide, on est acrophobe. Donc moi, voilà, c'est assez classique, mais dès que je monte, même dans une tour, dans un immeuble de plus de 20 étages, je ne peux pas regarder ce qu'il y a en dessous. Ce n'est pas juste de regarder vers le bas, c'est aussi quand je regarde vers le haut. Voilà, ça c'est classique.
Donc toi, tu ne pourras pas aller à New York.
Bah ça c'est vraiment, c'est l'une, ouais, c'est peut-être la raison pour laquelle je ne suis pas encore allé à New York, c'est que voilà, ça m'impressionne trop quoi, ça me fait peur. Donc voilà pour ma phobie.
Prochaine question.
Ouais, alors je regarde, attends, mon cahier. Tiens, j'aime bien cette question. une période dans l'histoire que tu aurais aimé connaître, que tu aurais aimé vivre. Est-ce que tu as une idée ? Est-ce que tu as réfléchi ?
J'ai réfléchi et tout à l'heure on mentionnait Robert Badinter, Gisèle Halimi. Je crois que j'aurais aimé vivre à leur époque, donc en gros les années 60, les années 70.
D'accord.
Pour déjà la mode, la musique de cette époque que j'apprécie. Et aussi...
Quel style de musique ?
Bah, quel style de musique ? Plutôt pop et rock aussi dans les années 60.
Et variété
70,
française aussi.
En France.
on appelait ça les 30 Glorieuses. C'est surtout ça. C'était une période un peu de croissance économique.
Et d'insouciance, j'ai l'impression.
Mais j'ai l'impression quand même que ça, en France, c'était plutôt les années 50 et 60. Et qu'à partir de 70, bah, y a la crise et tout ça. Mais encore, c'était sympa. Ouais,
ouais, bah, y a quand même eu la révolution culturelle de 1968. Donc,
ouais,
c'est vrai que les années 60 et 70 sont marquées, en tout cas dans l'imaginaire collectif en France, par une grande liberté. Voilà l'époque que j'aurais aimé vivre, pourquoi pas.
Mais t'as raison, cette époque, bah, tu sais que ma grand-mère, quand je lui en parle, elle me dit toujours que voilà, pour elle, son époque préférée, c'était les années 70.
Bah,
mais
vois,
peut-être que voilà, c'est dû aussi à son expérience.
Et toi ?
Alors moi, il faut remonter plus tôt, c'était avant. Moi, je sais pas pourquoi, mais il y a une période un peu qui me fascine. C'est plutôt tout ce qui est année folle. Tu sais.
Pas mal.
Donc là, on est plutôt dans les années 1920 et 1920, 1925. Donc là aussi, c'est une période un peu d'insouciance, de grande évolution culturelle, artistique. Et j'imagine la vie dans les années 20 à Paris, par exemple. Et je pense que dans certains milieux, évidemment, dans les milieux culturels et riches, c'était la belle vie. Ça devait être cool.
C'est vrai.
Mais juste pendant quelques années. Et encore une fois, si on vivait dans les milieux aisés hein, et riches.
C'est ça. Mais la fête dans les années 20, pour les milieux privilégiés, c'était quelque chose, je pense.
Autre question. Tiens, regarde, celle-ci, je suis en train de la découvrir. Tiens, alors on reste un petit peu peut-être dans le passé ou dans le présent, mais Violaine, avec qui tu aimerais dîner ? Peut-être française ou internationale.
Ou francophone.
Ou comme tu veux.
Alors, j'ai réfléchi à cette question. Je n'ai pas la réponse parfaite. Parce que, en plus, là, c'est une personne. Eh bien, pour, je pense, rigoler et parler d'art, bien manger et boire du vin, voilà, rigoler, j'aurais choisi René Magritte, qui n'est pas français, mais qui est belge.
Et qui est, rappelle-le quand même.
Qui est un peintre et un artiste surréaliste qui a eu une vie passionnante. Mais j'aurais aimé qu'il me raconte toutes les anecdotes, pareil, sur les années 50, sur les années 60, avec tous les autres artistes surréalistes. Je pense que j'aurais bien rigolé. J'ai pensé à René Magritte avant ce podcast. Si je pense plus longtemps, peut-être que j'aurais donné une autre réponse. Mais là, j'ai pensé à Magritte.
Ok, ouais, c'est pas mal. De toute façon, hein, imaginez passer un repas avec un artiste, t'aurais appris des choses même incroyables.
Mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé, voilà, avec quelqu'un de mort. Est-ce que toi, il y a une personne actuellement avec qui tu aimerais dîner ?
Bah ouais, moi, direct, quand j'ai vu la question, je me suis dit que ouais, j'aimerais vraiment dîner avec François Hollande.
C'est pas mal un homme politique.
François Hollande. Politique. Ouais, mais c'est pas n'importe quel homme. Parce qu'un homme politique, ça peut être ennuyeux un peu, parfois. Mais lui, François Hollande, vous le savez, j'imagine, c'était notre ancien président de la République française. Et en fait, j'ai choisi pas forcément parce que je partage ses idées politiques, mais c'est surtout parce qu'il a la réputation d'être quelqu'un de, bah déjà de drôle, qui a beaucoup d'humour.
Il a beaucoup, beaucoup d'humour.
Et voilà, qui fait beaucoup de blagues et qui est aussi bon vivant. Donc quand on dit bon vivant, c'est qu'il aime bien manger, il aime bien boire, et voilà, et il aime bien rire. Et je suis persuadé que de vivre, de partager un repas avec lui, ça peut être très très drôle. Et puis en plus de ça, c'est que bah, il aurait plein de choses à nous raconter, quoi.
On a plein d'anecdotes.
Imagine, pendant 5 ans il a été président, il a quand même dîné avec les plus grands, quoi, avec à l'époque c'était peut-être Trump,
ouais, avec Poutine,
avec tous les grands chefs d'État. Et bah, déjà il a plein d'infos, plein d'anecdotes à nous raconter. Donc ça, je kifferais, j'adorerais.
Ouais, c'est vrai que ça me ferait kiffer aussi. Vous aurez remarqué que tous les deux, on a choisi un peu des épicuriens, pardon, des gens qui aiment vivre et profiter de la vie.
T'as raison.
Et sinon, en personne vivante, moi, j'ai pas de nom, mais je pense que je dînerais avec un chef ou une chef pour qu'elle me fasse la cuisine.
Ah, un ou une cuistot, ou une cuisinière. Ouais. Voilà. Même si... Violaine, tu cuisines très bien. Hein.
Ouais, moi, pas comme un chef ou une chef étoilée.
Ouais, c'est pas mal quand même.
Est-ce que je peux te poser une autre question ? On a le temps ?
Oui, allez, okay. Vas-y.
Je trouve qu'elle est marrante. Est-ce que tu peux nous raconter ta dernière galère ? Donc un moment un peu où tu as eu des difficultés récemment.
Ouais, alors une galère, juste pour expliquer un peu, une galère c'est un moment un peu gênant, un peu ennuyeux, qui pose problème, mais qui n'est pas non plus très grave.
C'est ça, c'est assez léger.
C'est pas dramatique, donc c'est voilà, quelque chose qui nous ennuie. Bah moi dernièrement, là récemment, il n'y a pas longtemps, bah c'était il y a 3 semaines, je crois, ouais, en voiture, voilà. Je suis tombé en panne.
Oh.
Et je rentrais, j'étais sur l'autoroute, il me restait, je crois, 50 kilomètres. Et là, tout d'un coup, il y a des lumières qui se sont allumées sur le tableau de bord, donc vous savez, à l'avant de la voiture. En gros, alerte, problème moteur, vous devez vous arrêter. Et d'un seul coup, immédiatement, tu sais, ma vitesse est passée de 120 km/h à 50. Et c'est ne pouvais plus avancer.
Tu n'étais plus obligé de conduire à 50 km/h.
J'étais obligé. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais voilà, la bande d'arrêt d'urgence, bah, je me suis mis sur le côté à droite et je roulais tout doucement. Alors, je ne me suis pas arrêté, mais j'ai roulé très doucement jusqu'à ce que je puisse arriver dans une ville.
Oh là là.
Et voilà, ma voiture est à l'arrêt, elle est stationnée, elle est garée ici dans la ville et j'ai un rendez-vous dans quelques jours au garage pour réparer ma voiture. Je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, mais c'est peut-être un problème on appelle ça de bougie dans le moteur. C'est ce qui permet d'avancer et on a 4 bougies.
D'accord.
Dans un moteur. Violaine, toi qui passes le permis en
mais
ce moment,
voilà, qui ne suis pas du tout technicienne, je ne peux pas t'aider, mais en tout cas c'est ce qui te permet d'avancer, qui a eu un problème.
Ouais.
Et en vrai, être en panne, c'est vrai que c'est une énorme galère, surtout sur l'autoroute, c'est hyper stressant.
Ouais, ça c'est une belle galère. Je t'avoue que j'ai bien stressé, quoi. J'ai quasi paniqué même. Donc,
petite crise de panique.
Mais tout va bien, ce n'est que du matériel, comme on dit.
Parfait.
Toi, Violaine, tu as une petite galère ou je ne sais pas, un moment même dans ta vie un peu gênant? Quelque chose qui t'est arrivé.
Franchement, pour très rapidement sur la galère, faire le site frenchwithspanache.com. Ouais. Ça a été une galère. Ça s'est fait dans la douleur, mais ça a été fait.
C'est toi qui as tout fait sur le site. Moi, je ne me suis pas occupé de ça, de cette partie-là. Et ouais. Tu ne t'es pas fait aider. Tu n'as pas été aidé par d'autres gens. On essaye de tout faire seul.
Voilà, donc soyez tolérants. J'espère que ça vous plaira. Mais voilà, la galère, c'était peut-être le site. Et un moment gênant, on partage chacun un petit moment gênant qu'on a eu dans notre vie, récemment ou pas.
Ouais, un moment gênant, c'est un moment qui nous met mal à l'aise.
Oui,
et
qui nous gêne.
Et ben moi, c'était il y a 8 ans, quand j'étais journaliste, quand je travaillais à France Bleu, La Rochelle. Je t'avais raconté, je ne sais plus où tu étais, mais je t'avais appelé pour
te... Je pense que j'étais à Lyon.
Pour te raconter. Est-ce que tu vois de quoi il s'agit ?
Je crois, quand tu as fait un malaise, quand tu es presque tombé dans les pommes.
C'est ça. Pour vous raconter, c'était un lundi matin. Je présentais des journaux, donc je présentais un journal à la radio. Tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, il faut vraiment annoncer les news, annoncer l'actu de la journée. Et en fait, tu sais, je me levais tôt. Je me levais environ à 1h30 du matin, tous les jours. Et en fait, ce jour-là, j'ai fait les journaux et je crois qu'il était 9h du matin. Et là, je devais aller à l'antenne, comme on dit. Donc, je devais aller présenter, me déplacer pour aller présenter le journal dans le studio. En direct, hein. Et donc c'était à 9h, et je crois qu'à 8h58, je devais me lever pour aller marcher jusqu'au studio, et là, c'était impossible, impossible de me lever.
Tu étais quoi ? Tu étais comme bloqué, enfin pas physiquement, mais tétanisé, bloqué.
Ouais, épuisé quoi, et je n'arrivais pas à me lever de la chaise de bureau. Et puis c'est du direct, donc tu vois, à 8h58, si tu ne peux pas faire ça, il faut trouver une solution, parce que à 9h, pile, 2 minutes plus tard, il faut que tu présentes, il faut que tu fasses le journal. Donc à ce moment-là, la solution, c'était de donner, tu vois, le journal, mon journal, le papier,
script.
Le script à un collègue. Un autre journaliste. Mais ça c'était vraiment gênant, parce que comme c'était pas grave, c'était juste un petit malaise vagal.
Ouais,
quoi.
Quand même.
Mes collègues m'ont un peu, comme on dit, ils m'ont un peu charrié. Ils m'ont un peu, ils ont fait de l'humour et ils se sont pas moqués. Mais voilà, j'ai entendu après, tu sais, pendant quelques jours, des petites réflexions. C'était gentil, voilà.
Ok, ouais. Mais oui, c'est humain surtout.
Oui, oui, ça arrive, mais c'était un peu gênant, voilà.
Ok.
Autre question, plus légère peut-être. Tiens, tu vas me dire maintenant quelle est ta tâche ménagère, la corvée, au quotidien que tu détestes faire. Est-ce que tu as une petite idée ?
J'ai une petite idée, mais avant, je veux dire que moi, je déteste pas trop de tâches ménagères parce que j'aime bien faire le ménage, au sens où je trouve que ça me calme, ça me canalise.
Ok, ouais.
Voilà.
Ça te détend.
Ça me détend un peu. Une des seules choses que je déteste, c'est vraiment descendre les poubelles. Voilà, aller jeter les poubelles dans la rue.
Ouais.
Donc descendre les 4 étages pour aller jeter les poubelles. Je déteste
ouais.
ça.
En même temps, c'est pas hyper fun. Hein.
Non, c'est vraiment pas la chose la plus fun du monde.
Ok, je partage. Hein. C'est vraiment pas génial. Moi, c'est surtout, tu sais, de nettoyer la poussière, de faire la poussière, comme on dit, avec un chiffon.
Avec un chiffon.
Avec
exactement.
Un chiffon. Moi, tu sais que je suis allergique aux acariens. Donc les acariens, souvent quand avec la poussière qui vole, après je suis pas malade, mais j'ai des allergies, j'ai mon nez qui me pique, j'ai les yeux aussi rouges, tu le vois hein, quand je fais la poussière, après j'éternue, donc voilà, ça c'est pas fun.
Ouais, non, globalement,
globalement,
aucune tâche ménagère n'est fun.
Ouais. Ensuite, peut-être une chose tient dans ta vie, aujourd'hui, au passé, au présent, qui te rend fier. Une chose que tu as fait, qui t'a rendu fier peut-être, ou qui te rend fier aujourd'hui, une chose dont tu es fier.
Alors, question un peu compliquée, surtout que je peux souffrir du syndrome de l'imposteur. comme on dit.
C'est quoi ?
C'est le fait de ne pas être légitime. Je me sens pas spécialement légitime pour répondre à cette question.
Ah oui, parce que tu l'as dit dans l'autre épisode, mais tu es plutôt introverti, modeste aussi. Humble.
Humble, j'espère. Une chose qui me rend fière ou qui m'a rendu fière, cette capacité que j'ai eue, mais que tu as eue aussi, je crois, à partir à l'autre bout du monde, quand on est parti en Colombie. Le fait d'avoir pris cette décision, d'y être allé, de ne pas s'être défilé, je trouve que c'est honorable et que je suis fière de l'avoir fait.
Donc la Colombie, la Colombie où on a vécu pendant plus d'un
an et demi, ouais, un peu moins. Ouais. Et on est parti presque du jour au lendemain, presque sur un coup de tête.
Ouais, t'as raison.
Et c'était la première fois pour nous deux qu'on partait seul à l'autre bout du monde. Et j'en suis fière parce que c'est une période qui a changé beaucoup de choses et qui a notamment fait qu'on est devenu prof. Donc,
c'est vrai qu'on a commencé à enseigner là-bas, en Colombie, ouais, t'as raison.
Et on parlait de sortir de sa zone de confort, de lâcher prise. Je crois qu'en Colombie, c'est vraiment ce qu'on a fait. Donc pour ça, je suis contente et fière d'être partie en Colombie.
C'était un beau souvenir. C'était un beau souvenir. Donc toi, c'est quelque chose qui s'est passé plutôt dans le passé. Moi, il y a une chose là quand même, il faut le dire, Violaine, dont je suis assez fier. Ça nous concerne aussi tous les deux. C'est le podcast.
C'est pas mal, tu as raison.
Tu vois, c'est le podcast parce que... Alors, c'est pas le podcast en lui-même, pas du tout. Mais c'est juste l'idée de créer, l'idée de se lancer. Le moment où on a dit vraiment, on crée ce podcast, on se lance. Parce que en fait, pendant des années, on y pensait un petit peu, en tout cas pendant plusieurs mois, et on n'avait pas forcément le courage, l'envie. On avait l'envie, mais on n'avait pas forcément le courage de le faire. Tu vois, je suis fier de s'être dit, on achète le matériel, on commence à penser à des sujets. On commence à enregistrer, on achète le matériel, on se le fait livrer. À l'époque, je me souviens, on s'est fait livrer le matériel dans notre appartement de vacances en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. C'était l'été dernier. Donc voilà, tout ça, c'est quand même une petite fierté en toute modestie.
Bien sûr. Puis aussi être fier de tenir notre promesse de faire un épisode chaque semaine pour l'instant.
C'est difficile à dire. on est régulier. Le moment, on est régulier et ça, on veut vraiment rester dans ce rythme-là, un épisode par semaine. Donc, le temps passe à chaque fois très vite. Donc, Violaine, est-ce que tu peux me dire, il nous reste deux questions peut-être.
Ok.
Alors là, tous les deux, nous sommes profs de français. Avant, on était journalistes. Maintenant, je te demande d'imaginer faire un autre métier. Voilà, imagine-toi une autre vie peut-être dans la peau de quelqu'un d'autre qui va faire un autre métier pendant quelques jours peut-être, pendant un mois. Quel métier ce serait, tiens ?
Eh bien, tu l'as dit, on est prof et on enseigne beaucoup en ligne, donc on passe beaucoup de temps derrière notre ordi. Donc quand j'ai pensé à cette question, j'ai évidemment pensé à un métier sur le terrain, actif. Ouais.
Tu veux avoir un peu plus les mains dans le cambouis, quoi, comme on dit. Ouais. Tu veux avoir
les mains dans le cambouis, dans la vie réelle, plus ou moins. Et donc j'ai pensé à quelque chose hyper niche, tu vas voir, hyper précis.
Hyper précis.
Je pense que j'aimerais ouvrir une pâtisserie française à l'étranger. Vraiment, ça, tu sais, c'est quelque chose qui m'attire d'avoir un lieu, un jour, d'ouvrir un lieu.
Et en plus, je pense que toi, tu as le talent pour ça.
En pâtisserie.
En pâtisserie, je sais pas, mais comme tu cuisines bien et que je trouve que tu as un talent pour ça, tu sais bien faire les choses et ça a toujours du goût. Tes plats ont souvent, ont toujours, du goût. Et c'est quand même un talent qui n'est pas donné à tout le monde. Moi, quand je commence à cuisiner, je peux faire quelque chose de correct, mais ce ne sera pas délicieux. Dans quel pays ?
Je sais pas trop. Soit si c'est un mois, je sais pas, en Asie, allez.
Tu m'avais parlé, toi, de New York, non ?
Ah ouais, pas mal aussi. Ah ouais, pas mal aux États-Unis. Je tenterais peut-être ma chance aux États-Unis.
Je te verrais bien à New York.
Si j'avais, pas de contraintes financières, pas de budget limité, je ferais quelque chose d'incroyable, une pâtisserie française à New York pendant un mois. Pas mal, non ?
Très bien. Bah, j'irai goûter une tarte au citron.
Allez. Est-ce que toi aussi, tu ferais un métier plus manuel ou pas ?
Bien sûr. Ouais. Bah, ça, c'est un peu toujours le problème quand on travaille en ligne, quand on travaille à distance, quand on est en télétravail. Bah, souvent, on veut prendre le contre-pied, donc on veut faire l'inverse, l'opposé. Et moi, là, ouais, clairement, j'aimerais... faire quelque chose avec mes mains. Mmh. Et donc, ce serait, menuisier.
Oh.
Ébéniste, peut-être.
Travailler le bois.
Ouais, un métier dans le bois. Je ne sais pas lequel, mais ébéniste, menuisier, construire peut-être des cabanes dans la forêt, en France, dans les Alpes. Alors vraiment, ce serait...
précis aussi.
Non, mais c'est très précis, mais quand je te dis ça... C'est parce qu'on a dit un mois, hein. J'ai pas dit toute
oui,
ma vie,
c'est pour
parce
ça
que
aussi,
je pense
pour moi.
Que la réalité du métier est différente, notamment l'hiver, quand il fait froid, voilà. Mais je dirais ça, sinon un truc un peu plus, j'ai une autre idée aussi, ça m'a toujours fasciné, c'est d'être gardien de phare.
Ah, oh, trop stylé,
trop
pas
bien.
Mal.
Donc gardien de phare, donc
très
voilà.
Très solitaire.
Ouais, mais un mois.
Un mois, ok.
Un mois, et donc là, je m'imagine aussi pas très loin des côtes, hein, peut-être dans l'océan Atlantique, dans un phare, et j'imagine, voilà, ma petite chambre avec une vue tous les matins magnifique sur l'océan. Le lever de soleil, la solitude, mais aussi le calme. Alors là, pareil, hein, il ne faut pas que ce soit une tempête, il ne faut pas qu'il y ait une tempête.
Des bateaux en détresse.
Des bateaux en détresse, ou voilà, beaucoup de vent, des grosses vagues. Non, mais... voilà, pour un mois, travailler dans un phare, waouh, quel pied, quoi, quel bonheur. Et puis, voilà.
Moi,
après...
j'avais pensé à autre chose,
okay.
Très vite, être concierge dans un hôtel de luxe pour voir un peu tous les caprices des gens fortunés et un peu voir leurs demandes folles ou pas.
Ok. Ouais, c'est vrai que c'est totalement différent de la vie d'un gardien de phare.
Totalement, vous voyez, c'est l'opposé, le contre-pied.
Mais ouais.
J'espère que vous êtes encore avec nous.
On s'approche de la fin,
allez,
donc je vais juste te poser la dernière question, de toute façon. C'est la dernière que j'ai notée, que j'ai écrite. Tiens, est-ce que tu es plutôt chien ou chat ?
Et bah, les gens qui me connaissent le savent, plutôt chat à 100%. J'adore les chats. On a un chat qui dort actuellement, mais j'ai un autre chat. Bref, les chats sont très présents dans ma vie et je les aime pour leur indépendance, leur charisme, leur panache.
Je crois que dans un épisode, on l'entend miauler derrière le micro, donc miauler, faire le bruit des chats. Mais Ernesto, notre chat qu'on a adopté, qui a quel âge ?
5 ans.
Tu le décrirais comment ?
Comme j'ai dit, charismatique. Mmh. Alors, pour le coup, pas très indépendant. J'ai dit, parce que les chats sont réputés pour être indépendants, c'est pas trop son cas. Je crois vraiment qu'il est dépendant, surtout affectif.
Il nous colle, il nous suit partout. Finalement, c'est comme un chien et c'est aussi ce qu'on aime. C'est, il est moins indépendant que les autres chats et donc c'est ce qu'on aime chez lui. Moi, j'aime bien aussi les chiens. Je suis comme toi, plutôt chat, mais j'aime bien les chiens parce qu'on le sait, ils sont fidèles. Et puis moi, mon père, il a un chien que je trouve mignon et très sympa.
Mais plus de contraintes.
Oui, c'est vrai, le
tu
côté
sais,
contrainte.
Il faut sortir le chien tôt le matin.
Ouais, il faut se lever quand il pleut, quand il fait froid le matin. Bah ça dépend quand on a un jardin ou pas, mais c'est vrai que dans notre vie d'appartement, c'est plus facile un chat. Voilà, donc Ernesto, notre chat. Alors maintenant, finalement, vous nous connaissez tous les deux, vous connaissez un peu plus sur Violaine, un peu plus sur moi, et puis aussi notre chat. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour.
On a fait le
tour. On a été très complet. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous avez aimé ?
Dites-nous. Et pour ça, vous devez juste nous écrire, nous laisser un commentaire sous l'épisode ou nous envoyer un mail ou même laisser un commentaire maintenant sur le site.
Ouais,
vous pouvez laisser des commentaires.
C'est vrai, vous pouvez désormais. Et puis, si vous avez des envies, des thèmes que vous voulez qu'on aborde, qu'on traite sur la société française ou bien même sur autre chose. On est très ouvert, écrivez-nous. Hein.
Ouais, que ce soit un point de langue, de grammaire, n'hésitez pas à nous le dire.
On se retrouve la semaine prochaine, justement pour un numéro de langue française. Vous verrez, ce sera très utile. Merci Violaine pour ce numéro, ce bah, double
merci,
numéro.
Merci à toi, merci de t'être prêtée à l'exercice et de t'être confiée sur certaines choses.
Bonne journée ou bonne soirée à vous qui nous écoutez.
Salut.